à Rencontre spirituelle aujourd'hui. Il sera question des martyrs des premiers temps. On n'en parle pas souvent et pourtant, c'est eux qui ont confirmé l'Église, on peut dire, sous l'empereur Néron en particulier, au premier siècle. C'est eux qui, par leur courage, leur foi profonde dans des moments extrêmement difficiles qui ressemblent en bien plus grave à ce qu'on vit nous aujourd'hui, eh bien qui ont su maintenir solidement leur foi, leur adhésion à Jésus-Christ. Il y a, on le sait dès l'origine du christianisme dans l'Église, il y a eu des martyrs. Bon, les apôtres sont presque tous des martyrs. Jésus-Christ, c'est un martyr. Et un martyr, étymologiquement, c'est quoi? C'est un témoin. C'est ça que ça veut dire. Or, quel témoignage rendent les martyrs? Puis, on peut se demander ce que vaut leur témoignage. Au commencement du christianisme, nous voyons des témoins. Au sens rigoureux du mot, c'est ça que je veux célébrer aujourd'hui avec vous. Ils affirment les grands faits sur lesquels se fonde la foi chrétienne. Et puis, ils donnent leur vie. Plutôt que de renoncer à cette affirmation, ils sont témoins en particulier de la résurrection de Jésus dont je vous ai parlé lundi de Pâques, il y a une semaine, en vous parlant du linceul du Christ comme témoin de la résurrection. Bon, tout le monde n'est pas nécessairement d'accord avec moi, mais j'ai eu tellement de téléphones d'enthousiastes que je tiens à remercier tous ceux qui m'ont téléphoné, tous ceux qui m'ont écrit depuis quelque temps. C'est extraordinaire. Je vous remercie du fond du cœur. J'en ai bien besoin. Ça m'aide. Je suis un pauvre type qui a besoin de sentir que je ne parle pas à un mur. Je devrais pas, mais je suis comme ça. Je suis loin d'être un saint, comme vous voyez. Le mot de témoin revient sans cesse dans les premiers discours des apôtres, de ceux à qui Jésus précisément avait dit, « Vous serez mes témoins, vous connaissez ça, c'est tout début du livre des Actes des apôtres, cette première histoire de l'Église. » À ceux-là, là, au pied de la lettre, s'applique le beau mot de Pascal. Je vous ai parlé il y a quelques mois, ce cher Pascal, Blaise Pascal. Il dit, je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Nous qui tremblons d'affirmer certaines choses, qui ose parler des vraies choses? Je sais pas, on est gêné. Mais depuis le temps des martyrs, on parle des martyrs. Et pourquoi parler des martyrs? Il y a des gens qui m'écrivent et disent, j'aime pas ça quand vous parlez des martyrs, ça me blesse, ça m'irrite. Mais mon Dieu, est-ce qu'ils ne méditent pas sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand des martyrs, dont la souffrance la plus grande a été justement d'être abandonné? Lui qui aimait ceux qu'il avait créés, qui étaient ses amis, et qui sont partis. Énorme souffrance du martyr de Jésus. Alors pourquoi parler des martyrs des premiers temps? C'est qu'ils attestent, ils affirment le fait chrétien. Ils sont solidaires dans la continuité de ce fait chrétien avec les affirmations apostoliques, les affirmations des apôtres. Oh, on va nous dire, bien oui, mais il y a d'autres doctrines qui peuvent aussi avoir leur martyr. D'autres gens qui meurent pour des doctrines, avec non moins de sincérité, d'ailleurs, il faut l'avouer. Je ne mets pas leur sincérité en cause personnellement, mais peut-être qu'on peut se poser des questions. Est-ce qu'on peut vraiment les mettre sur le même pied que les martyrs catholiques? Je n'en suis pas absolument sûr, malgré tout le respect que je peux avoir pour eux. Dans les martyrs chrétiens, il y a une espèce de vertu morale extraordinaire qui vient de l'Esprit-Saint, qui vient du Christ vivant en eux. Entre l'homme qui meurt pour une idée, prenez Che Guevara, Quel homme admirable! Il meurt pour une idée qui lui est personnelle, qui est une construction de son esprit, et que même de bonne foi il oppose à la tradition. Mais le chrétien, lui, qui donne sa vie pour la doctrine qu'il a reçue et qu'il veut transmettre sans la transformer, il y a toute la distance, me semble, qui sépare cette humilité des grands martyrs chrétiens de ces hommes admirables ou ces femmes qui sont attachés au sens propre, là. Ils sont attachés. D'une part, il y a une certitude généreuse, peut-être, mais qui reste entachée d'égotisme, peut-être. Il me semble. Bon, j'ose pas affirmer rien. Le martyr chrétien, me semble, c'est rien que des impressions, hein. Le martyr chrétien est modeste. Oui, il est modeste. Il proclame que la doctrine pour laquelle il meurt n'est pas la sienne. Pas plus que le courage qui le fait bien mourir. Et qui, dit-il, ce martyr chrétien, est en lui l'œuvre, comme je viens de vous dire, de la grâce de Dieu. Il me semble que l'esprit de nos martyrs, est-ce que c'est pas de courir au devant des supplices, non pas par présomption. Il ne dédaigne pas les mesures de prudence. On a vu dans la vie de certains martyrs, je vous en ai raconté, même des évêques, qui fuient, qui essaient de se cacher. Oui, ils se cachent à l'occasion, en attendant l'heure marquée par, disons, la fatalité du martyr qui va subvenir parce qu'ils peuvent plus vraiment se sauver. Mais quand cette heure a sonné, là, on voit dans l'histoire des martyrs des femmes faibles, oui, craintives, des hommes qui tremblent en apparence au début, des enfants aussi qui ont un peu d'angoisse. Et tout à coup, ils se ressaisissent, il y a une grâce fantastique qui les habite. Il montre une constance au-dessus de la nature. C'est un spectacle d'autant plus saisissant qu'il n'est pas isolé. Hein, durant 3 siècles de persécution au début de l'Église, on a vu des martyrs de tout âge, de toute condition, qui affrontent avec une égalité d'âme parfaite. Les récits sont authentiques. Hein. Ils affrontent les bourreaux qui ont toutes sortes d'inventions pour être cruels. Et c'est encore pire aujourd'hui. Hein. La cruauté des bourreaux, des chrétiens aujourd'hui, est affreuse, affreuse en ce 20e siècle. Or, dans les premiers siècles, on les voit résister aux épreuves morales comme aux instruments de supplice. On en a vu se reprendre après avoir un instant fléchi. Ils ont tremblé, puis ils avaient presque renié, ou même, il y en a qui ont renié, puis sont revenus. Et sans donner dans l'exagération de certains calculs, on peut affirmer, me semble, avec une certaine conviction, que le nombre des martyrs a été très élevé. Hein? Il a été élevé tout au long de l'Église, tout au long de l'histoire de notre Église. Et des païens, au début de l'Église, à la vue de cet héroïsme qui était accompli sans forfanterie, savaient gagner à une cause qui donnait à ses adhérents, aux catholiques, des forces plus qu'humaines. Ils interprétaient à sa valeur juste l'argument du martyr. Et c'est pour cela que le sang était une semence, comme on dit, hein? Une semence de chrétien. Le sang était une semence de chrétien. Suivant le mot de Tertullien. Alors, Tertullien écrit de très belles choses. Je lisais ça hier. C'est si beau. C'est beau. La force d'âme des martyrs du début de l'Église, de ses successeurs, moderne aussi, de ces martyrs aussi aujourd'hui, tel qu'on peut l'étudier dans l'histoire des missions, hein, au 19e siècle en particulier, ça ne les montre pas inférieurs en beauté morale à tous leurs modèles depuis 2000 ans. Les chrétiens indigènes aussi, hein, pensez à ces jeunes noirs qui ont été torturés par un roi il y a un peu plus de 100 ans en Afrique, hein. Ils étaient récemment convertis, puis leur foi, leur générosité, leur don d'eux-mêmes, ils sont jeunes. Bien, leur foi dépasse peut-être même celle des missionnaires européens qui sont venus les évangéliser. C'est tellement merveilleux. Et je vous redis encore ce que je vous ai dit plusieurs fois. Si vous allez à Paris, allez visiter la salle des martyrs aux missions étrangères de Paris. Oh, c'est un lieu spécial, ça, pour comprendre. C'est rue du Bac, à droite de la chapelle dite de la médaille miraculeuse. En somme, l'Église des premiers siècles, c'est un long itinéraire de martyrs. Des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui se lèvent à l'appel de l'Évangile. Puis bien vite, ils découvrent le prix de la grâce. Oui, quand on a la grâce de croire, si petite soit-elle notre petite grâce, faut payer très cher. On peut nous en vouloir, nous détester, nous écrire des lettres abominables, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et les martyrs, eux, ils ont accepté de mourir au nom de ce qui les faisait vivre. Le nom de Jésus. Pourtant, ils gênaient pas du tout la société. Ces gens qui ont été martyrisés au début de l'Église étaient des hommes pacifiques, des femmes pacifiques. Ils étaient sobres, ils étaient loyaux. Ils pratiquaient l'aumône très généreusement. Il y avait là une grande variété d'individus, hein? Des hommes, des femmes, instruits ou simples, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, tout ça. Ils ont tous été mis dans le même panier, mais au fond, ces gens s'entêtent essentiellement ne pas sacrifier aux idoles. Et nous, est-ce qu'on sacrifie à toutes sortes d'idoles? Nous sommes passés dans un règne d'idoles. Hein? Le sexe, l'argent, la réputation, ce qu'on va dire de nous si on fait ci, si on fait ça. Et ce qu'il refuse, c'est de dire que César, l'empereur de Rome, est Dieu. Non, ça jamais. Car ils savent que c'est Jésus-Christ. Deuxième personne de la Trinité. Incarné. Le même procès recommence indéfiniment et de martyr en martyr. C'est absurde. Quand on songe que les accusés respectaient les autorités puis qu'ils priaient même pour le succès de leurs entreprises, ils commettaient au fond qu'un délit symbolique. Alors la persécution s'est déroulée en trois étapes. Larvée, dès les origines dont je vais vous parler, elle éclate avec l'incendie de Rome que je vais vous raconter en 64, dont l'empereur Néron accuse les chrétiens. Parce qu'on a commencé par l'accuser, alors il a mis ça sur le dos des chrétiens. Et pendant tout le second siècle, elle est incohérente, dispersée. Il y a Domitien aussi qui frappe, l'empereur Domitien qui frappe par main intermittente, s'est converti. Il les confond encore avec les Juifs. Il faut dire qu'il y a pas mal de Juifs parmi eux. En l'an 112, là, il y a un rescrit de l'empereur Trajan qui ordonne de ne pas pourchasser les chrétiens, de ne juger que ceux qui seront régulièrement dénoncés, puis de n'exécuter que ceux qui n'apostasiaient pas. Puis, l'empereur est manifestement indécis. Hein? Tertullien raille d'ailleurs l'illogisme par où pêchent les demi-mesures. Il dit, Tertullien, le grand écrivain chrétien, on ne cherche pas les chrétiens comme s'ils étaient innocents, on les punit comme s'ils étaient criminels. Alors, sous les empereurs antonins, le sort des chrétiens dépend toujours des dénonciations, puis là, les empereurs seraient enclins à la tolérance, mais ils cèdent aux réclamations d'un peuple romain, le superstitieux puis hostile, un peuple païen, qui prend prétexte des fléaux qui frappent les villes, il y a des famines, des épidémies, là. Alors, ils prennent prétexte de ça pour faire expier le malheur aux chrétiens. Alors, tout à l'heure, je vais vous parler des premiers martyrs sous Néron. L'empereur Néron était bien choqué en l'an 64 dans ses goûts d'artiste par la laideur de Rome. La laideur de Rome, il la voyait du haut de son palais. Rome était mal bâtie. Il y avait des maisons abominables, des rues étroites, tortueuse. Or, en juillet 64, surgit un incendie colossal qui détruit bon nombre de ces quartiers qu'il déteste. L'opinion excitée des Romains cherche un coupable. Et bien vite, on murmure le nom de Néron. On raconte qu'il a voulu se donner le spectacle de l'incendie de Troyes, car la ville de Troyes aussi était passée au feu. Vous savez que Montréal est déjà passée au feu au siècle dernier, comme ça, c'était épouvantable. Je vous ai parlé hier de Chicoutimi qui est passé au feu en 1912, c'était effrayant. Eh bien, Néron prend peur. Il cherche une diversion. Il pense accuser la colonie juive de Rome. Puis là, finalement, il fixe son choix sur une secte nouvelle. C'est nous autres, ça. Une secte qui est mal vue, c'est celle des chrétiens. C'est l'historien assez aristocrate, qui s'appelle Tacite, qui est plein de mépris pour les victimes. C'est pour lui de la canaille, à son avis, nous sommes de la canaille. Mais cet ennemi du despotisme de Néron ne peut se défendre d'une espèce de sentiment de pitié pour ceux qui ont expié, sans doute, à la place de Néron, cet holocauste de la ville de Rome. Voici ce qu'il écrit. C'est une source que je tiens à vous lire pour bien vous faire comprendre que tout ça est historique. Tacite écrit « Pour détruire les rumeurs, Néron se déchargea sur d'autres qu'il accusa. Il soumit aux tortures les plus raffinées, ces gens odieux par leur abomination, que les gens ordinaires appelaient chrétiens. Ce nom vient du Christ, qui, sous Tibère, avait été supplicié par le procurateur Ponce Pilate. Ils avaient été contenus pendant un certain temps. Et cette superstition exécrable se dégorgeait à nouveau, non seulement dans la Judée, qui était la source funeste de cette secte, mais dans la ville de Rome. Ce confluent très couru de toutes les infamies et de toutes les hontes. On saisit d'abord ceux qui avouaient, puis, sur leur déclaration, une immense multitude, moins comme incendiaire que comme ennemi de l'humanité. Les chrétiens ennemis de l'humanité, imaginez. Leur trépas fut monté en divertissement, dit Tacite. Leur mort fut monté en divertissement. Les uns, couverts de peau de fauve, furent déchirés par des chiens. D'autres furent fixés à des croix, ou sont devenus des torches pour brûler, le jour tombé, en éclairant la nuit. Néron avait offert ses jardins pour ce spectacle. Il donnait des jeux de cirque. Il se mêlait à la foule, vêtu en conducteur de char, ou bien il trônait sur sa voiture. Aussi bien que ces gens aient été des coupables dignes des derniers supplices, c'est Tacite qui le dit, on se prenait de compassion en voyant qu'ils étaient immolés, non pour le bien public, mais pour la cruauté d'un seul homme. Néron était tellement cruel que Tacite le reconnaît. Saint Clément de Rome, pape Lactance aussi, Saint Sulpice Sévère, Paul Rose, rattache à cette persécution le supplice de Saint Pierre et de Saint Paul. Saviez-vous ça? Saint Clément de Rome parle des tortures infligées aux chrétiens. En somme, c'est dans la nuit du 18 au 19 juillet de l'an 64, les trompes des vigiles qui gardent, surveillent Rome, la nuit, ils ont des trompes, c'est-à-dire des espèces de grandes trompettes, justement. Bien, dans la nuit, donc du 18 au 19 juillet 64, on entend ces trompes, ces trompettes qui retentissent dans Rome. Et on donne l'alerte au feu d'un accident extrêmement banal dans cette ville surpeuplée. Il y a trop de maisons qui sont tassées dans des îlots, qui sont construites en bois, et qui offrent aux flammes une proie toute prête. Mais cette fois, l'incendie prend une ampleur inaccoutumée. Très vite, sous le ciel rouge, où le vent violent balaie la fumée, le crépitement des flammes va très très vite. Le sinistre est partout à la fois. Il a éclaté au quartier populaire du Grand Cirque, parmi les épiceries puis les boutiques d'étoffes. Le feu est alimenté par des réserves d'huile et mille matières très combustibles. Il a instantanément gagné toutes les régions qui entourent le Palatin et le Cilius. Et au petit jour déjà, c'est une catastrophe. Le feu glisse au long des rues étroites, il rampe sur les quartiers pauvres. Il jaillit, oui, il jaillit soudain en brasier. C'est prodigieux. Le feu semble ne devoir connaître aucune résistance. Les habitants de Rome sont chassés de leurs maisons. Ils courent par bandes qui se heurtent les unes les autres et puis tourbillonnent comme des insectes. Ils cherchent en vain une direction pour fuir, puis les morts ne se comptent plus. Le drame dure près de 150 heures. 6 jours et 6 nuits, la flamme parcourt Rome tout à sa guise, quand enfin, au pied des Esquilies, on l'arrête en rasant bon nombre d'édifices. Le spectacle apparaît celui d'une fin du monde. Sur 14 régions que la ville comptait, 4 sont consumées jusqu'au sol. De cette autre, il ne reste que des pans de murailles, des groupes de maisons noircies inhabitables. 4 seulement peuvent se dire indemnes. L'odeur de détritus brûlés flotte partout dans une chaleur nauséabonde. Puis encore que leurs demeures perdues, que les immenses richesses détruites, les œuvres d'art helléniques, les butins de l'Orient ensevelis sous les ruines fumantes, ce que les vieux Romains pleurent, c'est tout un ensemble de souvenirs illustres. La catastrophe est irréparable. Il semble que le destin aveugle a voulu non seulement anéantir la ville, mais la déraciner de son passé. À quelle cause peut-on attribuer ce fléau épouvantable? Il semble plus que probable que ce soit accidentel. Les 8 points de feu simultanés que d'aucuns prétendent avoir constatés peuvent très bien, tant l'incendie a pris vite, n'avoir été finalement que des conséquences d'un seul foyer qui a été propagé par le vent. Pourtant, il n'est pas exclu des hypothèses acceptables. Il y a un nom qui court bientôt, un nom, oui. L'atmosphère alors est lourde à Rome et le règne de Néron a dépassé le tournant après lequel le monstre, ce monstre couronné, empereur de Rome, va se ruer vers l'abîme, là, parmi cent folies puis dans les flots de sang. Hein. Et depuis 5 ans déjà, Agrippine a été tuée sur l'ordre de ce fils Néron, auquel par un crime elle avait donné le trône. Des bruits commencent à se répandre d'un châtiment mystérieux appelé sur Rome par les crimes de Néron. Et les langues superstitieuses colportent la nouvelle de toutes sortes de prodiges de redoutables augures. Hein? Chute de la foudre dans les 14 quartiers de la ville à la fois. On raconte qu'il y a eu des morts surprenantes, la naissance d'un serpent qui est sorti d'un ventre de femme. On parle du passage d'une comète couleur de sang. Moralement responsable d'une telle colère divine, l'empereur ne l'est pas aussi plus concrètement, et en tous les cas, on le dit. Et le bruit grandit qu'on a vu de ses valets parcourir torche au poing les bas quartiers de la ville. Alors on le tient pour si pervers et si malfaisant, et l'accusation prend corps. Néron a beau se montrer réellement généreux et redoutable, il est considéré comme le grand coupable. Alors, on le croit, ce cher Néron, de plus en plus coupable. Il est question aujourd'hui à rencontre spirituelle de l'empereur Néron et des premiers martyrs de l'Église. Et aujourd'hui, bien, comme je vous dis, c'est la catastrophe pour les chrétiens à Rome. En 64, à la fin de juillet. Donc, l'accusation se fait de plus en plus forte contre Néron. Il a beau se montrer secourable, généreux même. Il abaisse le prix du blé à un taux infime. Il fait la distribution même. Il a beau également entreprendre immédiatement la reconstruction de la ville, selon un plan d'ailleurs qui est très intéressant. Il accorde de grosses primes aux propriétaires. Immobilise pour le déblaiement des décombres la flotte et l'armée. Mais dans l'opinion publique, il est de plus en plus admis qu'il est le véritable incendiaire. Il a vu un plan de Rome merveilleux, puis il a mis le feu pour reconstruire. Alors Néron prend peur. La colère du peuple après l'incendie lui tord les entrailles. Alors il lui faut trouver d'urgence une diversion, puis c'est les chrétiens qui la fournissent. C'est pourquoi eux, il est très difficile de le dire. Auparavant, il y a eu déjà quelques mesures prises contre cette secte nouvelle. C'est douteux. Je le demande. Je ne suis pas sûr. Tacite parle bien d'une femme de l'aristocratie Pomponia Gricina qui, en l'an 57, en raison de son mode de vie austère, puis de ses divers autres indices, l'a été accusée de superstition étrangère. Elle aurait été peut-être chrétienne et que son mari, Aulus Plautius, au nom du vieux droit romain, a déféré au tribunal familial, lequel, d'ailleurs, ce tribunal familial l'a acquitté. Était-ce une chrétienne? C'est possible, pas certain. Quant au motif précis de la persécution de cette année 64, on ne saurait les dire nettement. Tacite, lui, l'historien, là, il fait allusion en des termes bien vagues. Hein. Bon, on accuse du crime, écrit-il, des hommes abhorrés pour leurs infamies et convaincus de nourrir la haine du genre humain. Wow! Cela ne dit nullement qu'on a dû les tenir pour responsables du malheur. De toute façon, il faut considérer pourtant tout ce que le langage chrétien mystérieux aux non-initiés là, peut avoir d'inquiétant. Hein? Parce que notre langage est assez particulier. Ça a l'air provocateur des fois. Il y a de grandes images de colère divine chez de nombreux chrétiens quand ils parlent. Hein? La colère divine s'est exercée, le verglas s'est déversé sur la région de Saint-Hyacinthe, Granby, etc. La colère divine. On parle de la colère de Dieu qui détruit des villes pécheresses par le feu. De Dieu qui fait éclater des bombes atomiques sur des villes au Japon. C'est épouvantable quand on parle comme ça. Mais les gens parlaient un peu comme ça dans ce temps-là. Ils étaient redevables de certaines portions de l'Écriture sainte, d'une certaine tradition juive et païenne. Il y avait certaines forces plus secrètes qui peuvent agir aussi dans le sens de la calomnie. Il n'est pas exclu non plus que des dissentiments au sein même de la communauté romaine entre judéo-chrétiens et pauliniens, par exemple, ont pu attirer l'attention de la police. Les chrétiens commençaient déjà à se disputer un petit peu entre eux, comme on fait aujourd'hui malheureusement. Et dès lors, il est tentant pour le pouvoir de prendre comme bouc émissaire le petit troupeau chrétien méprisé, calomnié par la voix du peuple, dont il n'y a rien pourtant à redouter, hein? Alors, une rafle est donc faite dans les milieux chrétiens. Les premiers arrêtés doivent, par la torture, laisser échapper des renseignements. Alors, leurs relations, les conditions de leur vie, leurs propos et même leur silence peuvent servir d'indice. L'Église naissante n'a pas encore préparé les siens de tels événements, le martyr. Les prisons s'emplissent au point que Tacite peut parler d'une vaste multitude, si c'est le terme qu'il utilise, vaste multitude de chrétiens arrêtés. Ce qui donne un précieux renseignement sur l'extension qu'a déjà à Rome, notre foi nouvelle, moins de 35 ans après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Aux plus faibles, on arrache peut-être l'aveu qu'ils sont vraiment des incendiaires, c'est possible. Peu importe d'ailleurs le prétexte juridique, hein, ce que veut Néron, c'est bien moins châtier un délit que apaiser cette foule irritée là qui veut des coupables. Alors, il désigne des coupables. Il lui livre des victimes, un peu comme on fait aujourd'hui dans ces immenses combats de lutte et de boxe abominables qu'on peut voir à la télévision. Ou même ces courses de voitures où les gens rêvent que quelqu'un se tue. C'est affreux. Notre mentalité est épouvantable aujourd'hui. Mais c'était plus grave à cette époque, je pense. Peut-être, peut-être. Tout ce que peut inventer de pire l'imagination d'un sadique à qui la liberté de faire le mal est dévolue sans limite, Néron, mais c'est réalisé dans une féerie de cauchemar. On ne se borne pas à torturer, à décapiter, à crucifier les victimes dans le cirque de Néron, qui se trouve, savez-vous, sur l'emplacement actuel de la basilique Saint-Pierre. Parce que le cirque, dont les fondations ont été retrouvées, là, au Vatican, occupait l'emplacement de la partie gauche de la basilique Saint-Pierre. Et c'est son obélisque qui, translaté par Fontana, au temps du pape Sixte Quint, se dresse aujourd'hui au centre de la célèbre place Saint-Pierre qu'on voit à la télévision et qu'on peut aller voir évidemment en personne. Alors on joue à la chasse dans les parcs impériaux avec en guise de gibier des chrétiens cousus dans des peaux de bêtes et que des molosses, des chiens brutaux, ont à mettre en morceaux. on reproduit les plus scabreuses des scènes mythologiques ou les plus barbares. Je m'excuse de le dire, mais c'est... on prend comme figurantes des chrétiennes qui sont livrées à tous les outrages. Et le soir, au long des allées, où se sont allègrement répandues une foule abjecte et que Néron parcourt en cocher le conduisant son char, comme je vous disais tout à l'heure, mais on allume pour l'éclairage de hautes torches de résine qui sont en fait des êtres vivants, nos ancêtres dans la foi. Ceux qui nous ont transmis cette foi, ceux qui nous ont transmis cet amour pour Jésus, ceux qui nous ont transmis cette adoration de la très sainte Trinité, ce Dieu d'amour. Donc de cette nuit, du 15 août 64, Saint Clément Romain, futur pape, qui en a peut-être été le témoin oculaire, va garder un souvenir d'horreur inoubliable, et Tacite lui-même, l'historien, avoue qu'un tel excès dans l'atrocité attire de la part des consciences droites un peu de pitié envers les chrétiens. La persécution ne se limite pas à ces jeux vraiment abominables, faits pour amuser la foule de la ville. Elle continue dans le temps, elle s'étend dans l'espace. Et écrivant au lendemain, sans doute, du drame à des communautés d'Asie, c'est Saint-Pierre qui écrit, premier pape, eh bien, au nom de l'Église des élus, là, Saint-Pierre, le prince des apôtres, notre premier pape, il fait allusion aux divers tourments qui, pour un peu de temps, attristent ses frères. Hein? C'est dans la première épître de Saint-Pierre, au chapitre 1, versets 6 et 7, il leur déclare expressément que même innocents de tout crime, ils peuvent se trouver châtiés en tant que chrétiens, et que ce sera leur vrai titre de gloire. Si vous êtes châtiés en tant que chrétiens, si on vous écrit des lettres épouvantables, réjouissez-vous, vous êtes en bonne compagnie. Il est donc certain que Rome n'a pas le monopole des supplices. Et... c'est peu après avoir écrit cette lettre que, répondant à l'appel prophétique du Christ, ce vieil apôtre, si merveilleux, étend les mains et se laisse mener vers le supplice, hein? L'abbé Saint-Pierre a été crucifié la tête en bas. On voit ça dans Saint Jean, chapitre 21, verset 18. C'est peu après aussi, en même temps, il y a quelques mois de distance, on ne sait que tombe... lui, la tête tranchée sous le glaive, l'autre pilier de la jeune Église, qui est ce merveilleux Saint Paul. Celui qu'on appelle l'évangéliste des païens. La date des deux supplices n'a jamais pu être fixée de façon incontestable. D'après Eusèbe, qui a écrit la première grande histoire de l'Église, il faudrait la reporter à l'an 67, voyez-vous, 3 ans plus tard, ou 68. Mais sans doute que cet historien propose cette date pour mieux confirmer une indication qu'il donne auparavant sur les 25 années du pontificat romain de Pierre. Bah. De toute façon, il est certain que Saint-Pierre, le prince des apôtres, n'a pas été parmi les victimes des jardins du Vatican, là. Il a dû être martyrisé un peu après, dans le même quartier, non loin du cirque de Néron, là où il est enseveli, sous l'autel majeur du pape Jean-Paul II, et de ses prédécesseurs, et je l'espère de ses successeurs, dans cette immense basilique peut-être trop belle, mais émouvante. Et c'est là que sous l'autel est le tombeau de Saint-Pierre. Souvent, on les enterrait comme ça, là où ils étaient morts. Telle est la première scène de la longue tragédie du martyr. Et d'emblée, elle a atteint un niveau d'horreur qu'elle ne saura jamais dépasser. Mais qu'elle va rejoindre souvent. Néron peut disparaître 4 ans plus tard, traqué à mort par le dégoût puis la colère de tous les Romains. Le précédent qu'il a créé ne va se révéler que trop efficace, hein, de règne en règne, de dynastie en dynastie à Rome. L'exemple donné par cet empereur fou va être imité par des hommes qui pourtant ne seront pas tous des monstres. Hein. De 64 à 314, il n'y aura pas un seul jour où la menace toujours possible d'une fin épouvantable ne pèse sur les chrétiens. Quel courage nos ancêtres ont eu. On comptera environ autant d'années sanglantes que d'années d'accalmie pendant ce temps-là. de 64 à 314. Bon, les accalmies s'étaient plus ou moins espacées entre elles. Périodiquement, jaillir de ces 250 années d'histoire, comme au jardin du Vatican, ce cri de détresse, ce cri d'agonie, dont les premières tortures, dès les premières tortures, la foi a su faire un cri d'espoir, hein, parce que s'ils criaient, leur cri est devenu un cri d'espoir, un cri d'espérance pour tous ceux qui entendaient. Telle qu'elle est réalisée par Néron, la persécution antichrétienne peut ne paraître qu'une manifestation d'une folie absolument sanguinaire. Une espèce de diversion d'un maître qui a peur. Il a peur de la colère de ses sujets, mais une telle explication serait parfaitement valable si le drame de cette année 64 était resté unique. Mais très vite, hein, et sous d'autres empereurs, comme je vous ai dit, la persécution va recommencer. Elle se prolongera jusqu'au début du 4e siècle, 314, et elle n'est donc pas le seul résultat du pénible hasard qui a mis Néron sur le trône, puis le feu au bas quartier de Rome, non. Du coup, se trouve posée une question. Oui, c'était très important. Une question extrêmement délicate, sur laquelle la lumière n'est pas encore faite. C'est celle des bases juridiques que peut donner à de telles mesures un peuple. Un peuple comme celui de Rome, qui était aussi féru de droit romain. Il y a déjà la matière à discussion chez les chrétiens eux-mêmes. On le constate dans un passage de l'Apologétique que, vers la fin du second siècle, a écrit Tertullien. Il esquisse l'histoire de la persécution depuis les origines jusqu'à son temps. Il s'écrit, en s'adressant aux Romains, je vous lis son texte, « Consultez vos annales et vous y trouverez que Néron le premier sévit par le glaive impérial contre notre secte. » Plus tard, continue Tertullien, une autre tentative fut faite par Domitien, demi-Néron, moitié de Néron, quant à la cruauté. Et nos persécuteurs? Mais ce furent des hommes iniques, impies, infâmes, et que vous-même avez coutume de condamner. Au contraire, parmi les princes qui se succédèrent sur le trône dans le respect des lois divines et humaines, citez-en un seul qui ait fait la guerre aux chrétiens. Que pensez donc de ces lois que seuls exécutent contre nous des princes impies, injustes, infâmes, cruels, extravagants, déments? Mais que Trajan a éludé partiellement, que Vespasien, le destructeur des Juifs, n'a pas fait appliquer, ni jamais Adrien, ni Antonin le Pieux, ni Verus. En somme, nous avons toutes les raisons de comprendre que souvent ceux qui s'attaquent à nous de façon abominable sont des impies. Pensez à Staline, Hitler, Pol Pot, et tous ces gens, même en Amérique du Sud, oui, dans les Amériques, et en Afrique, et un peu partout, qui persécutent les chrétiens, même en France, au début du siècle, au siècle dernier. Ce sont des gens dont la piété est faible, des gens injustes, infâmes. Il faut leur pardonner, pardonner. Dans le texte de Tertullien, on discerne une manœuvre habile pour rejeter la responsabilité des persécutions sur des empereurs dont le nom était abhorré, mais encore une argumentation juridique assez forte aussi. Il existe bien des lois antichrétiennes, mais la preuve qu'elles sont monstrueuses et iniques, c'est que seuls des monstres, dit-il, des monstres d'iniquité les ont fait appliquer. Mais le malheur est que c'est faux, hein. D'excellents empereurs, oui, en ont fait autant. Tertullien s'est trompé. Car il y a des hommes honnêtes et bons qui ont persécuté les chrétiens. Et ça arrive encore aujourd'hui que des gens que l'on trouve bien sympathiques nous persécutent. C'est étrange. Il faut donc qu'il y ait eu autre chose. Il y a eu des soulèvements contre nous, probablement dus à certains excès de notre part, ou à des propagandes qui se font contre nous, et qui sont tout à fait injustes. Pour nous qui voyons le déroulement des faits des martyrs, des premiers martyrs de l'an 64, sous Néron et les autres, dans le recul des siècles. C'est bien évident que dès son apparition, le message de l'Évangile est un message de révolutionnaire. Est-ce qu'il est encore révolutionnaire, notre message? On peut se le demander des fois. Parce que ce message révolutionnaire de l'Évangile, c'est le Christ qui dit « Je suis venu mettre le feu sur la terre, un feu brûlant ». Il dit même que les gens ne se parleront plus, il y aura des disputes. Le message évangélique, il s'oppose substantiellement à ce qui constitue les bases mêmes de l'Empire. C'est une opposition, on pourrait dire, irrémissible, c'est sûr. Ni l'Empire ni les chrétiens n'ont eu immédiatement conscience de ça. Il est vrai que, selon les lois romaines, quand on y pense, les premiers chrétiens, nos ancêtres, tombaient sous l'accusation de lèse-majesté puis de sacrilège dès l'instant quand leur âme, ils refusaient les dieux de l'Empire, et spécialement qu'ils se dérobaient au culte de Rome et Auguste. Là. C'est comme nous. Quand le pape ne se soumet pas au culte du sexe, au culte de toutes sortes de choses aberrantes, quand le pape demande l'abolition des dettes des pays pauvres, on se dit qu'il ne se mêle pas de ce qu'il regarde, mais il se mêle de ce qu'il regarde, il s'occupe des pauvres, en s'occupant des pays pauvres. Il est révolté devant le scandale. Mais on pourra l'accuser. Mais heureusement, il y a des gens qui savent comprendre combien il a raison. On peut dire que la formule « Christiano sesse non licet » n'est pas permis d'être chrétien. Va se trouver admise comme principe juridique dès le lendemain de la persécution de Néron. Comme c'est un peu la même chose aujourd'hui, c'est pas permis d'être un vrai chrétien. Il faut être un chrétien mollasson qui accepte tout. Mais tout se passe comme si l'Empire romain, là, poussé par une sorte d'instinct de défense, désire s'opposer à cette foi nouvelle qu'il trouve étrange, alors même qu'il est très loin d'en soupçonner encore la puissance révolutionnaire, où les esclaves seront libres. Tout se passe comme si, d'autre part, le christianisme, alors même qu'il n'en a pas pleinement conscience lui-même, assume le rôle auquel l'a appelé son maître Jésus-Christ. D'être parmi les hommes un éternel signe de contradiction, c'est ça que nous sommes. Nous sommes des signes de contradiction. Ne soyons pas surpris si on nous déteste. Ne soyons pas surpris si on nous méprise. Le Christ a été méprisé, détesté, les apôtres ont été martyrisés, les premiers chrétiens ont été tués, dévorés par les bêtes, ou on s'en est servi pour faire des torches, comme je vous ai raconté. C'est comme ça. Ça dure toujours. Alors une question reste à poser, dont l'esprit moderne se sent inquiet. Que l'Empire romain ait eu des raisons plus ou moins lucides, plus ou moins instinctives, pour engager la lutte contre le christianisme, cela n'explique pas les caractères effroyables que, dès ses débuts, la persécution avait revêtue et qu'elle va conserver même lorsqu'elle ne sera plus l'œuvre d'un démon. Nous touchons ici à un des symptômes les plus certains qui annonce la désagrégation morale de cette société romaine, puis sa future décadence. Je vois d'ailleurs, moi, la future décadence de notre société. La désagrégation morale de cette société, on la voit. J'espère que vous avez lu ce livre « Non à la société dépressive » de Tony Anatrella, chez Flammarion. Il y a des livres actuellement qui paraissent dans ce sens-là, qui nous annoncent ce qui se passe actuellement. C'est terrifiant, terrifiant. Cette civilisation, qui partant de côté à Rome, avait placé si haut son idéal humain, puis avait su en formuler les principes là, dans des termes bien souvent admirables, a accepté de ravaler l'homme, puis de se ravaler soi-même dans des spectacles d'une incroyable bestialité comme on en voit aujourd'hui à la télévision, comme il s'en déroule à Montréal. C'est terrible, dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on a? On éprouve devant les récits des tortures dont se repaissait Rome au temps de l'Empire la même stupeur que cause au monde actuel le récit de certaines horreurs dont, hélas, notre monde a su multiplier l'exemple? On hésite à reconnaître, dans les responsables des êtres semblables à soi, comment se reconnaître dans Pol Pot, qui vient de mourir. Il y avait toujours eu à Rome un certain goût du sang, ou en tout cas, une certaine habitude à en accepter le spectacle. Une religion dont les cérémonies avaient l'apparence de véritables boucheries ne prédisposait pas à des raffinements de sensibilité. L'habitude de procéder en public aux exécutions capitales, qui était constante dans toute l'Antiquité, puis qui a duré jusqu'à tout récemment, ça poussait les foules vers des spectacles dégradants. Un esclave fouetté à mort n'était que chose usuelle. Ça se passe en islam aujourd'hui jusqu'à ce... Terrible! Et si tel maître nourrissait des espèces de poissons carnivores de chair humaine, des murènes, il ne passait pas unanimement pour scandaleux. À partir des derniers temps de la République, le goût populaire du sang est systématiquement employé par les gouvernants pour la distraction de la foule, imaginez, ou à proprement parler pour son abrutissement. Dans la célèbre formule « panem et circenses », vous connaissez ça, hein? Du pain et des jeux, le second terme est aussi essentiel que le premier. Les jeux, c'est-à-dire la démoralisation collective, c'est désormais affaire de gouvernement. Vous avez vu Mick Jagger, qui chante des chansons en honneur du démon, « Sympathy for the Devil ». Son ancien gérant a raconté qu'il s'était donné au diable. C'est apparu dans la presse, un livre qui raconte l'histoire de son groupe. Terrible. Il vient, tout le monde en parle, des pages pleines. Où en sommes-nous rendus? Eh bien, pour comprendre l'appétit de férocité que les Romains ont mis dans les persécutions antichrétiennes, il faut penser que ces séances où les condamnés à mort doivent s'exécuter l'un l'autre jusqu'au dernier, ou à des repas de fauves, la chair humaine constituant les proies, là, si révoltant que cela nous paraisse, de telles scènes dont les chrétiens sont les objets sont normales à Rome, et rares, très rares sont les témoins qui en ont marqué leur désapprobation, tellement on était rendu bas. Où en sommes-nous rendus pour protester contre toutes les horreurs qui déforme nos enfants. Personne n'ose rien dire. Eh bien, je trouve horrible les programmes de lutte à la télévision. Programmes de boxe, ces films de violence. Cette musique insensée. Ces paroles effroyables de certaines chansons. Mais que peut-on faire, grand Dieu? Si ce n'est que de prier, et de se dire que peut-être en priant nos martyrs, qui ont fondé notre Église, nous pourrons peut-être en sortir.